Bienvenue à Question d'aujourd'hui, une émission produite par l'Office de catéchèse du Québec en collaboration avec Radio Ville-Marie. C'est Rolande Parot qui vous parle. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet fort intéressant et que je viens de découvrir. Il s'agit d'une femme, de juive, qui a été dans la Shoah et qui s'appelle Etty Ilsum. Et elle était témoin de Dieu dans l'abîme du mal. Nous allons regarder comment elle a évolué. C'est une jeune juive néerlandaise qui a disparu tragiquement dans la nuit de la Shoah à l'automne 43. Le journal intime et les lettres qu'elle a rédigées durant la Deuxième Guerre mondiale comptent parmi les documents spirituels les plus significatifs du 20e siècle. Ce livre dont nous allons traiter, je vais le faire en compagnie du père dominicain Yves Berriot, qui a découvert cette personne et qui l'a fascinée. Ce livre a été publié chez Mediapol récemment, et vous savez que vous pouvez aller sur le site Internet de l'Office de catéchèse du Québec pour avoir toutes les références. Yves Berriot, vous êtes dominicain.
Oui, je le suis. Oui.
Je sais que pour vous avoir connu il y a déjà quelques années, que vous avez été psychologue, que vous avez fait vos études, que vous avez pratiqué avant de devenir dominicain. Et maintenant, vous êtes maître des novices, des dominicains, bien sûr, à Trois-Rivières. Et vous avez découvert Etty Ilsum.
Exact.
Racontez-moi cela.
Bien voilà, mon premier contact avec Etty Ilsum remonte en 92, c'est quand même assez loin. J'avais lu à ce moment-là une recension qui était parue, parlant du journal partiel et des lettres qui avaient été publiées, parce qu'on a eu une publication, une édition complète de ses écrits seulement en 2008, en français. Et c'est en 2002 seulement, 10 ans plus tard, alors que je suis en France et que je m'en vais vivre la Semaine Sainte à Toulouse chez les frères dominicains, que je découvre dans une librairie, Une vie bouleversée.
Ça s'appelle-t-elle un titre?
C'est ce qui a fait connu Etty Ilsum. C'est publié par Philippe Noble, qui a fait la traduction partielle à l'époque et maintenant l'édition complète. Et donc, j'ai lu ce livre pendant la Semaine Sainte et ça a été le coup de foudre, véritablement. Une grâce, je dirais.
Oui.
J'ai terminé quelques heures avant la vigile pascale et j'étais fasciné par cette figure.
Qu'est-ce qui vous a fasciné?
Bien, d'une part, je me suis toujours intéressé à la Deuxième Guerre mondiale, à la Shoah, aux témoins, surtout au 20e siècle. Il faut dire que mon père est allé à la guerre pendant la Deuxième Guerre, et
oui,
puis on a beaucoup entendu parler de cette guerre à la maison.
Oui.
Et quand les premiers documentaires qui ont commencé à apparaître à la fin des années 50 sont sortis sur la Shoah, hein, c'était le bouleversement. Et moi, à ce moment-là, j'étais jeune adolescent déjà, et puis j'étais fortement marqué. Et puis, comme chrétien aussi, pour moi, la Shoah incarne tout ce qu'il y a du mystère du mal dans notre monde et comment il peut se déployer de manière tellement brutale et sadique. Et donc, de rencontrer des témoins qui ont su traverser ces épreuves, même s'ils en ont été victimes, même s'ils y ont laissé leur peau, a toujours été pour moi un sujet d'intérêt.
C'est profond aussi quand même, hein, parce que c'est le mal, c'est vivre au cœur du mal et rencontrer Dieu à travers ça et en vivre, c'est autre chose.
Hein. Oui, bien on a besoin de ces témoins et donc je me suis toujours intéressé à ces biographies qui nous parlent d'eux.
Mais qui est-elle au juste cette femme-là?
Etty Ilsum est une jeune juive hollandaise,
oui,
qui est née en 1914. Donc, elle aurait 96 ans aujourd'hui.
Oui.
Et c'est une jeune femme assez libre d'esprit. Elle vient d'une famille d'intellectuels. Sa mère est une Russe qui a fui la Russie, qui est juive, elle aussi, bien sûr, qui rencontre son mari en Hollande. Et donc, elle est l'aînée de 3 enfants, Etty. Elle a 2 frères. Un qui deviendra un pianiste assez célèbre, Micha. Et donc, elle va étudier en droit en littérature russe. Elle apprend le russe. Elle est fascinée par la Russie à cause de sa mère.
Sans doute, oui.
Donc, c'est une jeune femme qui déjà fréquente l'université dans les années 30 et début des années 40. Donc, pour son époque, hein, c'est une jeune femme assez ouverte. Et d'ailleurs, les gens qui l'ont connue, quand on regarde des commentaires de personnes qui l'ont connue alors qu'elle était à l'université à l'époque, ses amis qui étaient des milieux de gauche, plutôt à tendance socialisante, libertaine, disaient d'elle qu'elle était... qu'elle les choquait même parfois
par
cette grande liberté, grande liberté sexuelle. oui, même pour ces milieux de gauche, on la trouvait très très libre.
C'était trop.
Peut-être un peu trop.
Un peu trop.
Ouais.
C'est un peu trop.
Donc ça, c'est au début de son cheminement et alors qu'elle est étudiante, elle habite en pension à Amsterdam. Mm-hmm. Et pour montrer le genre de jeune femme auquel nous avons affaire, elle s'attache assez vite au propriétaire de la pension, qui est un Hollandais chrétien, qui devient son compagnon et qui a près de 25 ans de plus qu'elle. Et alors qu'elle est à cette pension, Etsy va vivre des difficultés personnelles, petite dépression passagère, elle va somatiser.
Psychologiquement,
elle est fragile, elle le sent bien.
D'accord.
Et un des pensionnaires à la pension va lui conseiller d'aller rencontrer un thérapeute qu'il connaît. Et ce sera le compagnon, mentor d'Etsy, Julius Speer, qui lui-même a près de 25 ans de plus qu'Etsy.
Eh bien.
Oui.
Alors, qu'est-ce qui est arrivé avec ce thérapeute?
Bien, ce thérapeute est un juif.
Il l'a aidé à se retrouver elle-même.
Tout à fait. Lui était très connu en Allemagne. C'est un Allemand au départ. Il fuit Berlin en 1939, s'établit aux Pays-Bas. Et il pratique la... comment on appelle ça encore? C'est la chirologie, si on veut. C'est une thérapie à partir de la lecture des lignes de la main. C'est un chirologue, psychologue.
Mais quand on lit le livre que vous avez écrit, Yves Berriot, on se rend compte qu'il est un peu, excusez-moi, original dans sa méthode de thérapie.
Oui, c'est
donc, il fait la lecture des lignes de la main.
Bien, quand elle le rencontre, il pratique à la fois la rencontre individuelle dans le contexte desquels il y a des séances d'exercice physique, de lutte entre le patient et le thérapeute.
Ah bon?
Ça inclut aussi l'analyse des rêves, séances en groupe, massage, douche froide, méditation. Alors, c'est une méthode originale. Mais il faut quand même reconnaître que Julius Speer a étudié avec Carl Jung, donc c'est quand même pas un uluberlu non plus. Beaucoup de gens vont à lui et on voit le cheminement que va vivre Etsy Hillesum grâce à Julius. Il y aura des prises de conscience qui vont se faire assez rapidement et lui va l'orienter à travers ses méditations vers une rencontre
Mais quel genre de méditation faisait-elle à ce moment-là? Est-ce qu'elle pratiquait la religion juive?
Bon, ce qu'on dit de la famille, même si la famille compte quelques rabbins parmi les grands-parents, c'est une famille assez moderne dans cette Europe du 20e siècle.
Donc, c'était pas plus pratiquant qu'il faut.
Et donc, c'est pas...
Le sabbat,
il n'y a pas la pratique religieuse, on ne respecte pas le sabbat à la maison.
Cachère, non.
Non plus.
Non plus.
Et d'ailleurs, la parenté immédiate de la famille Hillesum les critique pour ce...
Ah oui, parce que ce manque de pratique religieuse.
Ce manque de pratique religieuse.
Alors, Etty, elle, face à... Parce qu'on n'a pas encore rencontré Dieu dans notre cheminement ici de l'émission, là, Yves Berriot, elle, la thérapie qu'elle suit avec ce monsieur qui... donc, je pense qu'elle s'éprend. Ils ont quand même une relation.
immédiatement est-il fasciné par lui.
Bon.
Hein, c'est un, à sa manière, c'est un don juan.
Okay.
Elle essaie toujours d'avoir ce qu'elle ne peut pas obtenir.
Oui.
Elle le dit elle-même. Et donc, elle s'attache à ce Julius qui l'oriente vers la méditation, qui est une méditation... on n'a pas beaucoup de descriptions dans le journal. Tout simplement, il lui demande de se centrer sur elle-même, d'accepter d'entrer en elle-même. Et la méditation est un de ses chemins qu'il favorise.
Et d'être à l'écoute d'elle-même, dans le silence intérieur.
À l'écoute d'elle-même, dans le silence intérieur.
Là, Dieu n'est pas encore là.
Dieu n'est pas encore
mais
là.
Mais se rencontrer, au moins, faire face à soi-même.
Oui.
Et il l'a bien dirigé. Est-ce que la thérapie, pour en parler un peu, après ça on va aller plus loin, la thérapie l'a aidé à se retrouver psychologiquement parlant, comme personne, comme...
Et assez rapidement d'ailleurs, c'est ce qui est étonnant, elle-même va le constater, déjà après quelques mois de ses rencontres avec Julius, sa vie prend une nouvelle direction. Un peu comme si ça n'attendait que cette rencontre, quoi. Elle était sans doute mûre, c'est une femme très intelligente, est-il soum, hein? Très sensible, qui est capable d'insights très profonds. Donc, elle avait besoin de quelqu'un qui la prendrait par la main, qui l'entraînerait vers ce monde intérieur. Et c'est ce que Julius Spier va favoriser chez Etiel Soum.
Est-ce que dans, à cette époque-là, Yves, elle n'a pas songé au suicide. Est-ce qu'elle était vraiment dans un creux profond, là? Fois, quand on est perdu ou qu'on se donne à l'un et à l'autre, c'est comme si on n'était pas bien situé dans la vie.
Etiel Soum a pensé au suicide,
oui.
Ça revient à quelques reprises dans le journal. Même une fois qu'elle a rencontré Dieu, cette tentation va se présenter, pas à la fin, bien sûr, mais au début de son cheminement. Et elle le dit, elle le mentionne.
Comme si mourir serait une libération.
Oui, elle le pense parfois, mais il n'y a jamais eu de passage à l'acte, il n'y a jamais eu de tentative là, de suicide chez elle. Mais comme bien des gens, je pense, parfois, dans notre société, il faut le reconnaître.
La lassitude de vivre.
Parfois, oui. Peut amener des gens à dire, oh, j'en ai assez, j'aimerais autant arrêter de vivre. Il y a ce réflexe qui remonte à l'occasion chez elle. Mais jamais Etty va ce passage à l'acte, non, mais vit des périodes de légère dépression, de dépréciation de soi-même.
Mais c'est comme ça que petit à petit, son cœur va s'ouvrir à la rencontre de Dieu.
C'est que son cœur est prêt.
Son cœur est prêt.
Son cœur est prêt.
Oui, grâce à cette thérapie. Juste à quelques secondes, on a oublié de dire, Yves, que vous avez écrit ce livre-là au Rwanda.
Oui, exactement, oui.
Vous étiez maître des novices là-bas.
Oui, j'ai été là-bas pendant un an.
Ben, il fallait faire la recherche quand même avant.
Bien, c'est que lorsqu'on m'a approché pour écrire le livre, je ne savais pas que j'irais au Rwanda et ça s'est décidé dans les semaines qui ont suivi.
Ok, et on en reparlera.
Très bien. Thank you.
Le monde de Dieu chez Etté Hillesum.
Oui.
Alors, comment elle a rencontré Dieu? Je pense qu'elle l'a d'abord, elle ne connaissait pas.
Bien, c'est-à-dire que Etty va le dire dans son journal, moi aussi, avant, j'étais de ceux qui disaient « je crois en Dieu ». Hein, quand on fait un sondage au Québec,
oui.
Les pourcentages sont très élevés. Mais elle-même se rendait compte que c'était une affirmation un peu banale, réflexe, que de dire « oui, je crois en Dieu, oui, il doit sûrement y avoir un Dieu », mais on ne peut pas dire qu'elle vivait à ce moment-là une relation avec un Dieu qui était importante pour elle. C'était une notion. Alors, quand elle se présente chez Julius en thérapie, ce dernier, dès le départ, l'oriente dans une recherche spirituelle aussi. Donc, il l'invite à lire la Bible, à lire le Nouveau Testament.
C'est pas rien, ça, en partant, là.
Il l'oriente vers Augustin. On a des éléments qui nous montrent aussi que il lisait Dietrich Bonhoeffer, Maître Eckhart. Donc, Etty Hillesum ne connaît pas cet univers personnellement, là, même si petite, elle est allée à la synagogue avec la famille. Elle a été élevée comme une juive, Etty Hillesum. C'est simplement vers l'adolescence, on ne sait pas exactement, mais la famille, tranquillement, s'est distancée de la synagogue, comme des familles ici se sont distancées de l'Église. Alors, c'est grâce à Julius, c'est lui, elle le dira dans son journal, c'est toi qui m'as apprise à prononcer le nom de Dieu. Et je pense qu'on ne peut pas détacher la méditation dans laquelle il l'invite à entrer, de ne pas avoir peur d'être à l'écoute d'elle-même, que Julius avait certainement en tête que cela l'amènerait à cette couche la plus profonde en elle, et qui est Dieu. Parce que Julius est un homme de foi. Lui-même a une vie de prière. À un moment donné, il va même lui écrire une prière qu'il a faite la veille, et qui était une prière pour les Juifs qu'on ramassait dans Amsterdam et qu'on envoyait vers le camp de Westerbork, qui était un camp de détention, en attendant d'envoyer les Juifs de la Hollande vers l'Est, vers la Pologne. Donc, Julius lui-même est un Juif. On n'a pas d'indication qu'il va à la synagogue. Il s'intéresse au Christ, il va même participer à un débat, le Christ et les Juifs, et va remettre un Nouveau Testament au rabbin avec lequel il a participé à ce débat. Et en même temps, on n'a pas d'indication non plus que Julius était un chrétien. Il ne se définit pas comme chrétien. Etty Hillesum, on n'arrivera pas à ça non plus. Mais bon, il faut savoir qu'on a affaire à un journal. C'est ça, quand on parle des écrits d'Etty Hillesum, c'est un journal écrit sur une période de deux années, de même pas deux ans environ, parce qu'on a on a perdu les derniers cahiers. Un nous manque, on a les lettres, mais si on parle de ses écrits, c'est sur deux années et demie. Et à compter de l'âge de 26 ans jusqu'à 29 ans, alors on peut pas tout demander à ses écrits.
Non, bien sûr. Et quelle image avait-elle de Dieu?
Eh bien, ce qui est fascinant chez Etty Hillesum au départ, dans sa méditation matinale, c'est là qu'elle va vivre une première expérience d'extase, d'une saisie où elle se sent prise par une force plus grande qu'elle-même. C'est là la première expérience que fait Etty Hillesum. Et peu à peu, le visage de Dieu qui se révèle à travers sa prière, c'est un amour qui est au cœur de sa vie, qui est au plus profond d'elle-même, et qui lui donne un regard sur l'univers où elle a conscience que c'est ce Dieu qui est un Dieu créateur, un Dieu qui, surtout ce qui est important chez Etty Hillesum, c'est un Dieu qui nous appelle à être responsable. À travers cette expérience de foi, elle découvre l'amour du prochain, la grande dignité de l'homme. Etty Hillesum, dans ses écrits, ne cherche pas tellement à décrire ce Dieu.
C'est ce qu'elle comprend, c'est ce qu'elle ressent, c'est ce qui l'attire.
C'est plutôt ce à quoi il l'amène comme femme, à découvrir sa place dans l'univers. Et à découvrir à quel point il est important de porter Dieu en soi, C'est l'expérience qu'elle fait de lui dans sa méditation. Un peu comme Augustin, quoi. Hein, je te cherchais en dehors de moi, oui, alors que tu étais au-dedans. Oui. C'est cette expérience que fait-il, Saume.
Vous écrivez dans le livre, en quelque part, quand elle le rencontre, elle a rencontré cet autre, a non seulement bouleversé sa vie, mais lui a donné une direction et une raison d'être. C'est comme si là, il y a eu une unification de son être, peut-être, qui s'est faite à ce moment-là.
Oui, tout à fait. Est-il Saume qui est en crise, qui cherche un sens à sa vie dans les aventures faciles, passagères, hein, dans les amourettes, comme bien des gens font.
C'est des indices, ça, qu'on est à la recherche,
qu'on est à la recherche
d'un amour profond.
D'un amour peut-être plus vrai, plus profond.
Bien sûr.
Elle le vit d'une part dans sa rencontre avec Julius, puis en même temps, il y a ce Hans à la pension, à qui elle veut être fidèle.
Et elle continue de vivre avec
Elle continue de vivre avec, mais avec Julius, ce sera un combat. Et un combat à travers lequel, même s'ils deviennent amis de cœur, oui, amants, passagers, il y aura une lutte pour ne pas s'enfoncer davantage dans cette relation.
De part et d'autre?
De part et d'autre. Parce que Julius, lui-même, a une fiancée en Angleterre à laquelle il veut être fidèle. Etty veut qu'il soit fidèle à sa fiancée. Alors, c'est le triangle amoureux, si
c'est
on veut.
C'est pas très facile à vivre.
Si c'est pas le quatuor. Mais ce que l'on voit, c'est peu à peu, cette dimension érotique, sexuelle, passe à l'arrière-plan. Et c'est le mentor, c'est le guide spirituel qui prend toute la place. Et donc, à la fois cette relation avec lui, mais plus fondamentalement, sa relation avec Dieu l'amène à trouver une cohésion en elle-même.
Donc, Elle ne fréquente pas le judaïsme.
Elle ne fréquente pas la synagogue.
La synagogue, puis elle n'est pas plus, on ne sait pas si elle n'est pas plus au christianisme.
Bien,
d'ailleurs, excusez-moi, elle ne parle jamais du Christ, hein?
Dans
votre livre, là, vous nous parlez de Dieu. Elle parle à Dieu.
Elle parle à Dieu.
Dieu. C'est pas Seigneur, c'est pas Jésus-Christ,
Non, c'est Dieu, mon Dieu.
Mais les évangiles l'aident à vivre sa foi.
Elle lit les évangiles, elle lit Saint Paul, qu'elle appelle Paul le Juif.
Il s'identifie.
Oui, et puis les enseignements de Jésus sur ne pas s'inquiéter du lendemain, l'amour du prochain, reviennent dans ses écrits. La majorité des citations, il y en a près d'une cinquantaine de la Bible dans ses écrits, près des deux tiers environ, sont tirés du Nouveau Testament et non pas de l'Ancien. Et il y a seulement un passage qui est quand même énigmatique pour moi, où elle cite Jésus qui dit à ses apôtres à un moment donné, si vous m'aimez, hein, vous allez quitter père, mère, ainsi de suite. Et elle va citer cet extrait quand elle a à choisir entre rester à Amsterdam pour s'occuper de ses parents ou continuer à travailler auprès des réfugiés, des prisonniers qui sont dans le camp de Westerbork et qu'on parque dans ce camp, on va en envoyer à
Auschwitz. Qu'est-ce qu'elle faisait auprès des réfugiés? Était travailleuse sociale?
Elle a travaillé comme aide sociale dans le camp de Westerbork en tant que juive, parce qu'il faut savoir que les nazis essayaient d'obtenir la collaboration des juifs afin de, sans le savoir, contribuer au regroupement des Juifs qui vivaient en Hollande et les envoyer dans les camps d'extermination. Hein? 105 000 sur 140 000 seront exterminés.
Incroyable.
Donc, on créait un conseil juif dans les principales villes qui étaient occupées et on leur demandait de fournir des listes, des noms, afin d'avoir de la main-d'œuvre à envoyer vers l'Est. Et donc, Etty Soum...
C'est un piège.
C'est un piège. Etty Soum elle-même, les amis vont insister pour qu'elle aille à ce conseil juif afin de la protéger. Elle y va reculons, et une fois sur place, elle y travaille 2 semaines, et elle dit, je ne veux pas travailler dans cette atmosphère où chacun essaie de sauver sa peau. Et donc, elle obtient de pouvoir travailler directement auprès des prisonniers, des Juifs qui sont envoyés dans ce camp en Hollande en attendant d'être déportés. Et donc, c'est là qu'elle va travailler quelques mois. Elle va tomber malade, elle va y retourner à la fin de sa maladie pour finalement choisir d'être internée alors que ses parents sont amenés eux-mêmes au camp de Westerbork et un de ses frères.
Oui, alors, c'est quelque chose. Hein?
Alors, c'est principalement ce lieu. Westerbork est un nom très important dans les écrits d'Etty Soum. C'est là qu'elle prend contact avec son peuple et c'est là qu'elle se définit comme juive. Hein. je me dois d'être avec mon peuple alors que des amis dans la résistance néerlandaise veulent même l'enlever.
Veulent la sauver,
oui. Malgré elle-même.
Oui.
Et elle va refuser en disant, je me dois d'être avec mon peuple.
Ça veut dire qu'elle est solidaire de son peuple.
Elle est solidaire de son peuple. En ce sens, c'est une fille d'Israël.
Oui.
Mais jamais elle ne se définit dans son journal comme une juive pratiquante. Ce que j'ai découvert à Amsterdam via la Croix-Rouge, à travers des documents que j'ai pu obtenir, c'est que sur la carte d'inscription auprès du Conseil juif, elle est enregistrée comme juive de religion libérale.
Ah.
Plutôt qu'orthodoxe.
Je vois.
Alors, qu'est-ce que ça signifie exactement? On ne peut pas en dégager plus que ce qu'on a, mais certainement, il y a une solidarité avec le peuple juif et elle-même se définit comme une juive.
Alors, si je reviens à la parole qui l'a frappée dans la Bible, si tu veux me suivre, quitte ton père, ta mère, alors
oui.
Qu'est-ce que ça signifiait? Est-ce qu'elle quittait ses parents pour vrai à ce moment-là?
C'est que, pour être-il somme, il est clair que on a un devoir de solidarité avec l'humanité qui dépasse le cadre de la famille. Et ce qui va expliquer que lorsqu'elle est envoyée à Auschwitz, elle ne monte pas dans le même wagon que ses parents. Parce que Tilsum, au camp, s'occupait des mères seules avec leurs enfants, s'occupait de leur trouver des vêtements, de la nourriture, alors qu'à chaque semaine, 1300 Juifs environ étaient déportés vers l'Ouest. Donc, Tilsum se découvre une vocation universelle et elle trouve un appui dans cette parole de Jésus.
Yves Berriot, nous parlons toujours du livre d'Ilsum, donc que vous décrivez ici un petit peu son histoire, je pense, dans le but de la faire connaître davantage, parce que son journal et ses écrits, c'est assez volumineux, je pense. Hein?
Exact, oui.
Bon, alors là, on voit qu'elle se découvre une mission. Maintenant, c'est auprès de ses frères et sœurs juifs, là, en solidarité avec ce peuple, dans ce qu'ils vivent de si tragique et on n'a pas de mots pour qualifier cela. Alors, quelle était sa prière à travers cela? Comment a-t-elle pu vivre sa foi en Dieu à travers cette immersion dans le mal, finalement? Alors, dans votre livre, il y a différentes formes de prières dont on parle, les prières de demande, d'intercession, etc. J'aimerais ça qu'on parle vraiment de sa vie intérieure.
Une chose qu'il faut comprendre quand on aborde les prières d'Etty Ilsum, on peut la trouver trop optimiste, jovialiste, parce qu'on se dit quand même, dans un tel contexte de guerre, comment se fait-il qu'on retrouve une telle prière chez elle? Bon, il faut savoir d'une part que elle vit surtout à Amsterdam pendant qu'elle écrit son journal. Elle en écrit une partie lorsqu'elle est au camp, mais la grande partie du journal, certaines des lettres, nous viennent de son séjour à Amsterdam. Alors, elle habite cette ville, c'est une ville occupée, comme est toute l'Europe,
oui,
quasiment.
Bien sûr.
Hein.
Oui.
Et il y a une vie quotidienne qui s'y déroule. Bien sûr qu'on est témoin parfois d'exactions, des voisins qui ont été arrêtés, des étudiants fusillés, ainsi de suite, des professeurs d'université qui se suicident. C'est ce dont elle est témoin, ou ce dont elle entend parler, mais c'est pas tous les jours. Et il y a une vie culturelle qui continue, même si elle doit maintenant se dérouler entre Juifs, parce que les Juifs ne peuvent plus fréquenter les lieux publics.
Non.
Mais on voit dans son journal qu'il y a des soirées, des concerts organisés, une vie quotidienne, comme on mène la nôtre.
Bien sûr.
Alors, c'est dans ce contexte qu'Étienne Soum développe cette intimité avec Dieu. Et donc, elle va écrire à un moment donné, elle est en train de lire les Confessions de Saint-Augustin, et elle trouve qu'il y a une grande rigueur chez Augustin, mais en même temps, elle dit, mais quel feu, hein, quelle passion. Elle est éblouie par les Confessions de Saint-Augustin, ça rejoint un peu sa propre démarche.
Elle se retrouve un peu.
Elle doit se retrouver, et elle va dire, on ne devrait écrire des lettres d'amour qu'à Dieu.
C'est beau, hein?
Et c'est beau, et c'est cela sa relation à Étienne Soum. Cette conversion, c'est une rencontre de quelqu'un. Elle se compare à un puits qui est obstrué par du gravier, hein, par la terre, et qu'il faut débroussailler pour retrouver la source. Autrement dit, son expérience de Dieu est celle d'une source profonde en elle-même, qui est source de toute vie. Et c'est dans cette prière qu'elle découvre sa place dans le monde. Elle, la mal-aimée, elle se découvre aimée. Et en même temps, ceci va donner une direction à l'amour qu'elle porte, une véritable direction. Mm-hmm. Ce n'est plus simplement une passion qui se gaspille dans toutes sortes d'aventures. Donc, cette relation avec Dieu la fait s'ouvrir à la fois au prochain. Et ce qu'elle va définir comme étant sa mission, elle veut devenir psychologue comme Julius, d'une part. Et quand elle va au camp, elle est consciente qu'elle a un travail à faire auprès de tous ses prisonniers parce qu'ils sont tellement désespérés. Et elle se surprend à être porteuse d'une telle paix en elle-même, en dépit de tout ce qu'elle voit.
Yves, les prisonniers, ils savent qu'ils s'en vont vers la mort?
Non.
On ne le sait pas.
On ne le sait pas.
Ils ne le savent pas.
On entend des rumeurs. Étienne Soum soupçonne que ce qu'on veut, c'est notre extermination, elle va le dire ainsi.
Mais ils ne savent pas comment ça va se passer, ni quand.
On ne sait pas, et même elle qui emploie ces mots là, d'extermination, d'anéantissement, on voit dans le journal plus tard encore des possibilités de peut-être pouvoir faire quelque chose à l'Est, peut-être qu'elle va être envoyée jusqu'en Russie, là d'où vient sa mère.
Mais qu'est-ce qu'elle fait comme démarche auprès de ces prisonniers-là? Elle les écoute?
Étienne Soum est à l'accueil, si on veut, quand les prisonniers arrivent. Elle s'occupe en particulier des mamans, des enfants.
Oui.
Et comme elle a la possibilité de sortir du camp et d'y revenir, elle y passe parfois une semaine, deux semaines, elle retourne à Amsterdam et là, elle est en contact avec une foule de gens, et pas seulement des Juifs, des chrétiens, pour obtenir des médicaments, des vêtements, de la poudre, de lait pour bébé. Et elle rapporte cela parfois en cachette au camp. Et quand elle est dans le camp, elle va distribuer le courrier, elle va voir les mamans, et surtout, elle anime une équipe, et on a un beau témoignage d'une jeune femme qui elle-même va être exterminée. Et ces jeunes femmes travaillent avec elle, ensemble. Quand il faut savoir qu'à chaque semaine, comme je le disais, il y a un train qui part vers l'Est.
Oui.
Donc, on appelle ça les aptes au transport.
Oui.
C'est un euphémisme, là. Parce qu'on fait monter des handicapés, des aveugles, et elle sent bien. On nous dit qu'on envoie des aptes au transport vers l'Est, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ces vieillards qu'on fait monter dans des grabats, dans des civières, dans le train, et c'est des wagons à bestiaux. Alors, Étienne Soum, quand il y a un de ses départs, sa tâche avec les jeunes femmes qui l'assistent, c'est de préparer les mamans. Des bouillottes d'eau chaude, trouver des couvertures, des vêtements pour bébé. Faut comprendre que Westerbork n'est pas un camp d'extermination, n'est pas vraiment un camp de concentration comme on en a connu pendant la guerre. C'est un camp de transit, un camp de détention, bien sûr.
Oui.
Et il y en a qui vont trouver le moyen de rester là pendant 2 ans. Mais pour la majorité des gens qui y viennent, c'est un lieu de passage. Il y a un hôpital qui compte plus d'un millier de lits.
Incroyable.
À Westerbork. Il y a un théâtre, il y a une garderie. Alors, on essaie de donner un semblant de vie normale à la population
juive. Les prisonniers peuvent aller au théâtre?
Ils pouvaient aller au théâtre, il y avait une troupe de théâtre. Et ceci nous aide à comprendre les prières des Tsilsum. Si parfois elles semblent si optimistes,
il y avait de l'espoir.
Il y avait un contexte. Il y a un journaliste néerlandais qui a été détenu lui-même à Westerbork et qui a été fusillé à Auschwitz et qui parle des amoureux le dimanche qui marchent le long des barbelés.
Ah oui.
Il y a une vie quotidienne à Westerbork d'un semblant de normalité. Et le but aussi de l'armée allemande, DSS, c'est de ne pas effrayer non plus les prisonniers.
Non. Faut pas qu'ils sachent.
Faut pas qu'ils le sachent. On leur dit pas, on vous envoie vers Auschwitz, les chambres à gaz.
Ça serait invivable. Donc, oui. Alors, quelle sorte de prière fait-elle à travers
bien,
ça?
Bien, chez Tsilsum, on va retrouver à peu près toute la gamme des prières qu'on peut retrouver dans nos prières chrétiennes.
Oui, bien sûr.
Que ce soit des prières de demande, bien qu'elles ne demandent jamais pour elles-mêmes.
Non, j'ai vu ça, les extraits que vous avez mis, elles se préoccupent beaucoup des autres.
Elles refusent à demander pour elles-mêmes.
Vous voulez nous en lire
une? Je peux peut-être vous donner...
Ça va nous donner une bonne idée.
Un petit extrait... Elle va dire « J'ai remercié Dieu, mais non pas pour le lit chaud et la soupe au pois, mais pour qu'il veuille demeurer en moi encore une fois. Mm-hmm. Je ne le remercie jamais pour les choses terrestres qu'il me donne, et je ne devrais pas me révolter non plus. Contre lui, devait-il me les enlever? Cela va contre le bon sens que de rendre grâce pour des choses que les autres n'ont pas. »
C'est beau.
Alors, est-il somme et consciente que ce qui prime, c'est le souci des autres. Et tant que les autres ne sont pas sauvés, ne sont pas aidés, elle porte en elle une insatisfaction. Et sa manière de les aider pour elle, vous me demandiez ce qu'elle se donnait comme travail au camp de Westerbork, c'est de mettre un peu de Dieu dans l'autre. Hein, elle veut être psychologue comme Julius. Mm-hmm. L'expérience qu'elle a vécue grâce à Julius, il lui a fait découvrir le nom de Dieu. Hein, c'est le plus grand don qu'il lui a fait, elle le souligne dans son journal, elle l'appelle « toi, le grand médiateur
hein, ». Et ce qu'on observe aussi, Yves Berriot, que c'est quand on rencontre Dieu vraiment, c'est vraiment s'orienter vers les autres. On s'en va vers l'amour des autres.
Bien,
si ça reste juste pour soi, son petit Dieu personnel, ce n'est pas une vraie rencontre.
Non.
C'est une image qu'on se fait de Dieu à notre service.
Ça peut être une étape, hein, bien sûr.
Oui.
On commence un peu comme le nourrisson avec sa mère.
Oui.
C'est plus par besoin qu'il va vers elle que par désir.
Bien sûr.
Quand on devient adulte, c'est un autre rapport qu'on établit avec nos parents. Hein.
Oui.
On peut même devenir les parents de nos parents.
Oui.
Alors, il y a cette relation-là avec Dieu chez Etty, où elle va devenir même responsable de Dieu. Hein. Donc, ce n'est plus tellement ce qu'elle attend de lui.
Comment on fait ça, être responsable de Dieu? Elle veut l'aider, je pense, c'est ça?
Il y a toute une vision chez Tsilsum qu'on va retrouver chez le pasteur Dietrich Bonhoeffer, qui va être tué aussi par les nazis pendant la guerre, un chrétien, et où il y a une communion de pensée assez étonnante entre ces deux figures qui ne se connaissent pas. Mais pour Tsilsum, on a une responsabilité face au monde. Et en ce sens, je dirais, c'est très juif, cette spiritualité de responsabilité face à notre monde. Et donc, elle va même dire dans une de ses prières, « Ce n'est pas toi qui peux nous aider, mon Dieu, dans la situation où nous sommes. Tu es bien impuissant à nous aider ou à faire quoi que ce soit pour nous maintenant. » En Haïti, voit le destin inéluctable qui attend son peuple.
Oui.
Et elle n'attend pas une intervention magique.
Il n'y aura pas de miracle.
Qui va faire que les tours de garde, les barbelés vont s'effondrer. Non.
Non.
Mais c'est à nous de t'aider, mon Dieu. Et en t'aidant, nous nous aidons nous-mêmes.
C'est beau, ça.
Et comment nous aider? C'est de mettre un peu de Dieu, de toi en nous, mon Dieu. Un peu de toi en nous, mon Dieu. Quand il y a cette force qui nous anime, cet amour qui est accueilli, ben ça fait de nous des hommes et des femmes qui peuvent pleinement assumer leur destin. Hein, c'est ça chez Tsilsum qui est très fort.
Yves Berriot, comment Etty Hilsum pouvait-elle pardonner? Est-ce qu'elle avait le sens du pardon dans cette situation si grave et si tragique qu'elle vivait avec ses semblables?
Ce qui est étonnant chez elle, c'est que cette dimension du pardon est déjà présente, ou certainement en germe, avant même sa rencontre de Dieu. Et on le voit dans son journal. Julius Speer vit cette même miséricorde face au prochain. Hein? Il y a une communion de pensée dès le départ. Et alors qu'elle a travaillé comme secrétaire pour Julius et qu'ils relisent des notes ensemble, et elle relit avec lui ce qu'il a écrit, il va dire à un moment donné, « N'y aurait-il un seul Allemand, hein, soldat, digne du titre d'être appelé un homme, que cela vous enlèverait le droit de maudire tout un peuple ?»
À cause
de cet homme.
Ouais.
Et quand Etty va lire cela dans les notes de Julius, elle lui saute au cou. Nous sommes dans les premières semaines de leur cheminement ensemble. Elle lui saute au cou parce qu'elle le rejoint tellement dans ce qu'elle porte. Et donc, c'est là qu'on va voir chez Etty Hilsum, mais on va lui reprocher.
Elle devrait être en colère.
Elle devrait être en colère et elle vit naturellement dans un entourage qui ne fait que maudire
oui.
L'occupant allemand,
bien sûr. Oui.
Et on lui reproche cette attitude qui n'a pas sa place. Elle aussi, lui dit-on, en ce qu'elle dit elle-même, on m'invite dans le fond à laisser grandir la haine en moi. Et elle va affirmer que quand cette haine habite en nous, bien c'est notre propre destruction que cela va entraîner. C'est un saint Augustin qui disait, et si tu veux transpercer ton frère de l'épée de ta colère, eh bien cette épée devra tout d'abord traverser ton propre corps.
Mm-hmm.
Alors Etty Hilsum a cette même vision de la question de la vengeance. Je vous lis un tout petit texte. Où elle parle de l'attitude de l'occupant nazi en Hollande.
Elle ne peut pas en parler. Hein?
En juillet 42, elle dit ceci, « Ils sont impitoyables, totalement sans pitié. Et nous devons être d'autant plus miséricordieux au fond de nous. Tel était le sens de ma prière d'aujourd'hui dans le petit matin. » Etty Hilsum, par exemple, on a dans le journal cette rencontre qu'une pensionnaire de la pension où elle habite raconte, qui est une juive. Et il y a un soldat allemand qui va lui parler alors qu'elle attend pour prendre le tramway, ce qui est quelque chose qui ne devait pas se faire.
Oui, c'est bien cela.
Et lui, en Allemagne, travaillait soit comme médecin ou infirmier, mais il lui dit qu'elle ressemble tellement à la fille d'un homme qui l'a soignée là-bas. Et il va lui offrir une partie de ses légumes et lui laisser un petit billet en lui demandant si éventuellement il ne pourrait pas se revoir. Et donc, Isel, qu'elle s'appelle, raconte cette histoire à la pension. Et Etty Hilsum va dire, « Eh bien, ce soir, il nous faudra prier pour ce jeune soldat allemand, car enfin, l'ennemi a pris un visage humain. »
Ah, c'est beau, c'est très beau.
Et pour elle, c'est cela, c'est qu'il n'y a pas de solution à la violence et à la vengeance. Ce n'est pas une solution.
On n'a rien réglé encore de nos jours.
Et elle va avoir des discussions avec des amis qui sont dans la résistance, ceux-là même qui voulaient l'enlever, en leur disant, mais ça ne mène nulle part. Si tu n'extirpes pas de ton propre cœur tout ce qui mène à la violence et à la vengeance, on n'a rien résolu. Il faut commencer à travailler tout d'abord sur soi-même. Alors, voilà un peu la position d'Etty Hilsum en ce qui concerne l'ennemi.
C'est extraordinaire quand même. Hein? Alors, c'est sa façon de répondre au mal dans lequel elle vit.
Bon, elle a une vision très spirituelle, il va de soi, et puis on n'est pas tous appelés à être des Etty Hilsum, à chacun de vivre sa vocation humaine mieux qu'on le peut.
Oui.
Mais pour Etty Hilsum, ce qu'elle a pressenti dans son expérience de Dieu, c'est l'importance du travail sur soi-même et à quel point, dans ce contexte de violence qu'elle-même vit, la vengeance n'est pas une issue.
Est-ce qu'elle réussissait à converser avec ses parents à ce sujet-là?
Ce qui est beau, Etil Soum, quand on l'a vu au tout début là, de notre entrevue, à quel point elle est en proie des sentiments dépressifs, une vie désordonnée, on peut comprendre qu'elle vient d'un milieu familial aussi où il y avait beaucoup de tensions entre le père et la mère.
Entre les parents. Et elle, est-ce qu'elle en avait avec...
Elle en avait avec sa mère en particulier, qu'elle avait beaucoup de difficultés à supporter. Elle est en révolte un peu aussi face à sa famille.
Des familles comme on retrouve.
Oui. Et donc, quand ses parents vont se retrouver au camp, on a quelques lettres, on a ce journaliste... néerlandais qui lui-même est interné, qui va décrire la famille Il Soum. Et on voit Etty aussi dans son journal parler de son père, en particulier. Ils vont commencer à partager sur des extraits de la Bible, parce qu'on disait qu'ils étaient loin de la synagogue au début, mais le père demande à Etty de lui apporter des petites Bibles.
Il y a un fond de...
Je pense que
c'est pas un pratiquant.
C'est pas un athée.
Non, il n'est pas pratiquant.
Mais il n'est pas pratiquant, mais il y a une grande recherche chez lui, et on voit se ressouder les liens familiaux alors qu'ils sont à Westerbork. Le souci qu'Etty a de ses parents, de son frère Misha, la foi, je dirais, l'a amené à se réconcilier non seulement avec le monde, mais aussi avec sa propre famille.
Et c'est que vous avez dit à un moment donné de notre émission, Yves Berriot, que quand ils ont pris le wagon, probablement pour aller au camp d'extermination, les parents ont été exterminés avant elle, de toute façon.
Bon, voilà ce qu'on sait. On sait tout simplement qu'ils ont quitté le 7 septembre 1943. Et ce qui est arrivé, c'est qu'on avait offert au frère de Etty, qui était un pianiste réputé, un officier allemand lui avait offert de faire une tournée des camps allemands d'officiers pour jouer des concerts pour eux. Et celui-ci avait demandé que l'on sursoie à la déportation de sa famille. Et ça a été refusé. La mère d'Etty a pris sur elle, sans en parler à personne, d'écrire aux responsables de la police secrète et des SS de la Hollande, un dignitaire nazi. Et quand il a reçu cette lettre d'une mère juive, comment une juive pouvait-elle se permettre d'écrire. De lui écrire, ça a été sa réaction, il a ordonné la déportation immédiate de toute la famille.
Oh.
Et donc, dans ce wagon sont montés Misha et ses parents et Etty. C'est un voyage de 3 jours et 3 nuits jusqu'à Auschwitz.
Il ne devait pas avoir des lits, là.
Et ce que l'on pense, c'est que les parents sont soit morts dans le voyage ou à l'arrivée, ils ont été gazés. L'on pense que Etty Il Soum, compte tenu de son âge, il faut savoir que...
Elle avait 29 ans.
Elle avait 29 ans. Quand on arrivait à Auschwitz, tous ceux qui avaient 18 ans et moins, ou 55 ans et plus, étaient automatiquement gazés. Ainsi que les mamans avec leurs enfants, quel que soit l'âge des mères.
Ouais.
Et donc, sur cela, on pense que Etty a survécu.
Mais quelques mois.
Quelques mois seulement, parce que c'était les travaux forcés, et les femmes, à ces travaux forcés, habituellement, ne survivaient que 2 mois. 2 ou 3 mois.
Je comprends. Et le pianiste?
Misha, on a des témoignages comme quoi il a pu survivre jusqu'au printemps 1944. Et qu'il a été tué à ce moment-là, mais j'ai pas les détails ici avec moi. Tandis que l'autre frère a été interné plus tard, a été libéré, le cadet de la famille a été libéré par les Russes, mais est mort de la typhoïde dans le voyage de retour. Donc, ils sont tous morts suite à cette déportation.
Alors, qu'est-ce qui vous reste de... Je sais que vous avez lu tous ces écrits, Yves Berriot, mais qu'est-ce qui est le plus fort pour vous dans sa spiritualité?
Dans sa spiritualité, chez Etty...
Vous dites qu'elle est mystique aussi.
Oui, pour moi, on approche...
Ça veut dire quoi pour nous aujourd'hui, être mystique?
Bien,
Vous vouliez nous lire quelque chose?
Bien, c'est-à-dire que, simplement, voici ce qu'on... Je ne suis pas le seul à penser que c'est une grande écrivaine.
Non.
Je pense qu'ici, au Québec, on a Alexandra Plechoianou qui a fait sa thèse de doctorat sur Étienne-Soum. C'est la grande spécialiste. De plus en plus, on s'intéresse à elle. Il y a un centre d'études à l'Université de Gand en Belgique qui est consacré à Étienne-Soum.
En tout cas, vous nous donnez le goût de lire son journal et ses écrits.
Et ce qu'on a dit de son journal et de ses écrits, une auteure américaine, elle dit que c'est l'un des documents spirituels les plus significatifs de notre époque. Un écrivain néerlandais, il dit qu'on retrouve dans les écrits d'Étienne-Soum un sommet de la littérature néerlandaise. Puis le jésuite Paul Lebeau, il parle de ses écrits comme l'événement spirituel et littéraire le plus marquant du milieu du 20e siècle. Alors, moi, ce que je retiens chez Étienne-Soum, c'est sa foi en Dieu, cette foi tellement personnelle, qui dépasse les cadres d'une religion, si l'on veut, puis en même temps, moi, comme chrétien, le Dieu qu'elle aime, le Dieu qu'elle prie, c'est mon Dieu. C'est pourquoi je me sens si proche d'elle.
Vous sentez proche.
C'est une sœur en humanité, une sœur dans la foi. Et l'autre aspect chez elle, à la fois sa vision de la dignité de l'homme, sa responsabilité en ce monde, son devoir de témoignage à la fois et aussi de construction de ce monde. Alors, Étienne-Soum nous livre un témoignage de réconciliation, de pardon, de paix.
Et même au milieu des petites tâches quotidiennes, quand elle s'occupait des détenus, excusez, c'est pas le mot juste, là, mais quand elle s'occupait des prisonniers, je pense qu'elle priait Dieu pour les petites tâches quotidiennes. Si elle apportait une certaine joie, c'est justement parce qu'elle croyait en la présence de Dieu à travers tout cela.
Elle offrait toutes ses journées. Ça, c'est clair. Dès le matin, cette méditation à laquelle Julius l'avait entraînée est devenue une méditation en présence de Dieu à tous les matins, tous les soirs. Mais il y a une prière continue chez elle. Chaque événement l'a fait se tourner vers Dieu. Et on en a le témoignage dans son journal et dans ses lettres. Regardez.
Il vous reste quelques secondes. Avez-vous une petite phrase à nous lire à la fin?
Oui, bien sûr. Elle dit, « Toi qui m'as tant enrichi, mon Dieu, permets-moi aussi de donner à pleine main. Ma vie s'est muée en un dialogue ininterrompu avec toi, mon Dieu, un long dialogue. »
C'est beau. Merci beaucoup, Yves Berriot.
Ça me fait plaisir.
Vous venez d'entendre « Questions d'aujourd'hui », une émission produite par l'Office de catéchèse du Québec en collaboration avec Radio Ville-Marie et avec l'appui de la Fondation de la vidéo religieuse. Notre sujet aujourd'hui, c'était de nous faire connaître Étienne-Soum, témoin de Dieu dans l'abîme du mal, par le dominicain Yves Berriot, à la technique Daniel Fortin. Je vous rappelle que vous pouvez aller voir le thème des émissions qui est toujours présenté sur le site de l'Office de catéchèse du Québec, www.officedecatéchèse.qc.ca. Ici Rolande Parot, qui vous donne rendez-vous mardi prochain à la même heure.